ces mots « Paris » et « disparu » ont quelque chose à voir avec la poésie, d'abord, justifier pourquoi Paris aurait un sens dans la poésie. Il n'est pas du tout évident que quand on se pose des questions de poésie, on est à s'occuper d'un dehors au mot. On voit bien que pendant des années, les années en particulier pendant lesquelles j'ai fait mes études sur la poésie, on ne parlait plus du dehors des mots. On croyait que les mots se mettaient à fonctionner tout seuls comme un de pur jeu de signifiants, que tous ceux qui avaient désiré inclure du dehors dans leur poésie s'étaient fait piéger, soit parce qu'ils avaient laissé sortir un désir inconscient, soit par une idéologie, que tout ça fonctionnait tout seul, que le lieu de la poésie, c'était les mots, et donc on ne voit pas pourquoi la poésie aurait affaire avec une question du lieu. Mais pour ceux qui pensent pas comme ça, c'est-à-dire comme moi, et que donc qui croient que la poésie a quelque chose à voir avec le dehors, avec l'existence de quelqu'un dans un lieu. Il n'est pas du tout évident non plus que ce soit la ville qui soit privilégiée comme lieu, parce que si on recherche dans la poésie, dans les mots, un accord avec le lieu où l'on est en train d'être et le lieu où il se trouve, il me semble, et en tout cas c'est ce qui se passe dans la poésie d'aujourd'hui, du moins celle que j'aime aujourd'hui, et parmi les baudelairiens, eh bien c'est qu'ils ont abandonné l'idée de ville comme un lieu tout compte fait maléfique pour la poésie, parce que un réservoir d'images, un pourvoyeur de rêves, mais oublieux du lieu d'existence réelle. Or, si la poésie a célébré l'accord de quelqu'un avec un lieu, peut-être on y réussira plus facilement en retrouvant des questions, des mots qui vont dire immédiatement des essences, comme dirait les platoniciens ou Yves Bonnefoy, c'est-à-dire la terre, les arbres, les pierres, enfin la nature, comme on aurait dit au XVIIIe siècle, et non pas la ville qui serait un lieu dangereux. On voit que les moines autrefois devaient se retirer au désert et fuir la grande prostituée qu'était la ville pour retrouver un accord avec le divin. Et bien depuis que, comme il semble dans la poésie, Dieu soit mort, et bien pour remplacer le divin, il semble que les poètes d'aujourd'hui ont tendance à faire la même chose et à se retirer de la ville elle-même. C'est des questions qu'on pourra poser. Cependant, avec Baudelaire justement, sinon avec Nerval, la ville et le nom même de Paris sont entrés pleinement dans la poésie, comme justement dans la recherche même de cet accord avec un lieu possible où vivre. Et donc, poser la question du Paris disparu, à partir du moment où on la pose dans cette cassure, dans cette déchirure de la modernité au XIXe siècle, c'est quand même une question qui a à voir aussi avec la poésie. L'autre mot, c'est disparu. Celui-là, il n'y a peut-être pas besoin de s'en expliquer, parce qu'il semble intrinsèquement lié à la conscience de la poésie depuis toujours. Il semble que celui qui veut célébrer quelque chose, quand bien même ce serait le moment le plus plein de communion avec un lieu extérieur, justement, il sait que dès qu'il aura utilisé les mots, il va avoir transformé ce lieu même en image et donc l'avoir perdu. Et nécessairement, l'idée de nostalgie est liée à celle de la poésie. Et donc, c'était pas difficile de rassembler ces deux mots et de choisir d'accepter de parler du Paris disparu et du Paris qui change à propos de la poésie au moment même où a lieu cette cassure dont on vient de parler et dont il était bien question qu'on vous parle à ma place ce soir. D'autre part, ces mots de Paris disparu, c'est le titre d'une petite brochure de Marville et à laquelle je crois bien avoir participé. D'ailleurs, j'aurais donc pu penser qu'en effet c'était un sujet pour moi quelque part, et je vois que je, sans avoir rien soufflé à la bibliothèque des amis de l'instruction, des photographies de Marville ont été installées derrière le mur. Je vois donc que nous sommes en communion d'esprit de ce point de vue, et c'est peut-être par là que je vais commencer. Je ne sais pas si vous connaissez Marville. Ceux qui connaissent la bibliothèque historique le connaissent sûrement, parce que nous avons fait plusieurs expositions sur lui, et une en 92, je crois, à l'occasion de laquelle on avait publié cette brochure, qui est entre parenthèses pas encore épuisé. Vous pouvez donc en profiter, ça vaut 110 francs. De même que le Nerval n'est pas épuisé non plus, 150 francs. Le Baudelaire, lui, il est malheureusement très rare, donc j'en ai un là, si vous voulez, on pourra le mettre aux enchères à la fin. Voilà, cette fois j'ai fini mon spot et je commence. Je ne sais pas si vous voyez ces photographies, Marville a été l'archiviste des rues de Paris. Archiviste des rues au sens où on lui a demandé de photographier les rues qui allaient disparaître dans Paris. Et il s'est donc appliqué à poser son appareil, très bas toujours, dans un axe à peu près toujours le même, dans chaque rue, à chaque carrefour, photographiant les carrefours d'un côté et de l'autre, qu'on ait une idée exacte de la place de chaque rue. Et pratiquement, vous voyez à chaque fois, rue untel disparue, rue untel disparue. C'est pratiquement des archives, c'est la mémoire, c'est le rôle que Baudelaire reconnaissait à la photographie. Vous savez que les poètes, en général, n'aiment pas la photographie. Là, au moins, il a été l'archiviste, il a sauvé de l'oubli, croit-il, les rues de Paris. Et donc, même Baudelaire ne le critiquerait pas d'avoir fait ça, et je pense même qu'il aurait aimé ces photos s'il avait connu. Je vous signale aussi que, antérieurement à ça, à la photographie sur plaque de verre, dont vous voyez quelques tirages ici, il avait d'abord photographié des nuages, ce qui fait que nous avons aussi les archives des nuages du Second Empire. Vous voyez, ils étaient comme ça. Et photographié au sud de Paris, il y a 8 photos comme ça à la bibliothèque. Elles sont exactement cadrées comme les pastels de Boudin avec la mer en dessous, sauf que là, c'est la ville qui a remplacé la mer. Et il aurait pu être un rêveur, décider de se retirer dans les nuages. Il a fait comme Baudelaire, il est descendu du ciel dans les rues pour se décider à fixer ces rues. Pourquoi je parle de Marville pour commencer? D'abord parce que ça me permet de situer le lieu comme si j'étais un historien et que j'y connaissais quelque chose. Mais ce qui est frappant, c'est hormis l'histoire, c'est que ces photos créent immédiatement une nostalgie d'un Paris perdu, parce que nous qui sommes habitués au Paris d'Haussmann et aux grandes avenues, ou au pire encore autour dans des terrains vagues ou des espaces verts, on a l'impression là qu'on avait une ville avant qui avait été conçue pour ceux qui habitaient dedans, c'est-à-dire que les extérieurs, les rues, ils sont traités exactement comme des intérieurs. Impression qu'on a à Rome ou à Prague, par exemple, et on imagine mal que Paris a été comme ça aussi. Et le fait que la ville soit traitée avec des rues comme des intérieurs, ça donne l'idée qu'on peut être dans cette ville, habiter cette ville comme un lieu, et comme donc elle aurait pu être le lieu d'un accord entre un être et celui qui l'habite, non pas seulement le lieu de la circulation, du mouvement qu'elle va devenir, justement, dès qu'Haussmann va avoir nécessairement inventé les grandes avenues, puisque la ville devenait déjà une ville seulement de mouvement et de circulation, et non plus un village où on habite. Et peut-être, tant mieux pour nous, que Haussmann ait agi ainsi. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir des nostalgies devant ces photographies, avec l'idée que la ville pouvait, comme on dit en philosophie, révéler un être dans, un esse in, qu'on va pouvoir opposer à l'esse ad, l'être vers, qui est celui de la circulation du mouvement, qui sera totalement présent chez Baudelaire et dans la modernité, mais peut-être pas tellement après lui, parce que peut-être c'était un grand danger pour la poésie, et on verra qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le suivre dans cette voie. Il est peut-être unique à avoir réussi cet instant-là. Mais hormis ça, il y a un autre point qui pourrait s'appeler encore Paris disparu, dont on pourrait parler à propos de ces photographies, c'est que on remarque aussitôt que ces photographies sont totalement menteuses par rapport à la réalité de Paris, du fait même qu'elles ont supprimé les passants de ces rues. La vie a totalement disparu pour une raison totalement technique, c'est que Marville posait très longtemps, peut-être exprès, peut-être pour obtenir les détails qu'il désirait. Vous pouvez lire les noms des rues, chaque affiche. Vous voyez d'ailleurs que Paris était déjà couvert d'écritures comme aujourd'hui, si ce n'est plus. Tout ça, vous pouvez le voir, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il passait des gens dans ces rues. Or, peut-être en même temps qu'il a réussi, par hasard, une autre grande révélation de la modernité, qui sera celle de Baudelaire, c'est que ceux qui passent dans la ville, ceux qui passent, eh bien, ils ne restent pas non plus dans l'esprit. Ils traversent. Quand vous avez une passante, c'est un éclair, puis la nuit, fugitive, beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs, bien loin d'ici, bon, on parlera de Baudelaire tout à l'heure. Eh bien, l'idée même que ceux qui passent ne laissent qu'une trace fantomatique, je ne sais pas si ces photographies-là vous le montrent, mais si vous regardez les photos de Marville, presque surtout de découvrir justement ces fantômes, parce que ceux qui ont dû s'arrêter pour laisser passer une voiture un peu plus longtemps, ceux-là, ils vont laisser quelque chose de leur passage sur la photographie. Et alors là, on est totalement dans Baudelaire et dans l'idée du passage qui serait la grande révélation de la ville, hein, sans parler de Benjamin qui va analyser ça plus tard, hein, sous le titre Passage, la capitale du 19e siècle, ou Passage. Je ne sais pas sur celle-là si on en voit, mais si là on en aperçoit, c'est qu'on voit la trace de ceux qui sont passés, mais on n'en voit plus que la trace. Or, c'est ce qui est aussi laissé dans l'esprit, dans la ville, puisqu'on n'a plus le droit de s'adresser à ceux qu'on rencontre. Hein, si vous rentrez dans le métro, vous ne dites pas bonjour, c'est une véritable agression trop connue de saluer quelqu'un. Si vous croisez un regard, vous aussitôt vous vous retournez pour vérifier que aujourd'hui Bastille est toujours entre Saint-Paul et l'autre station, plutôt que d'affronter le regard de quelqu'un. Donc ce qui reste, c'est aussi un fantôme de ceux qu'on a pu croiser dans la ville. Donc Marville est aussi la révélation de ça. Donc vous avez comme ça, avec cette parfaite introduction, les deux parties que je veux tenter d'exposer à propos de Nerval et à propos de Baudelaire. L'une qui serait la nostalgie du Paris perdu, et l'autre qui serait la chance offerte par la ville, tout de même, d'une rencontre éventuelle, au moins dans les fantômes que l'on croise perpétuellement. Je peux donc en venir à Gérard de Nerval, puisque c'est ce que j'avais, paraît-il, annoncé, c'est marqué là. Je ne sais pas s'il faut dire qui était Gérard de Nerval devant un public averti, comme ici. J'ai eu l'occasion à l'exposition de m'apercevoir que, à part son nom et le fait qu'il était mort, suicidé, et qu'il avait écrit peut-être Sylvie, Aurélia et le Desdi Shadow, on n'en connaissait pas grand-chose. Peut-être si, un autre poème, qu'on va donc pouvoir citer tout de suite, qu'on apprenait de mon temps à l'école, mais autrement, on n'avait pas l'air de savoir grand-chose. Alors, Nerval est donc un écrivain du 19e siècle. Il est né le 22 mai 1808 à Paris, rue Saint-Martin. Il est mort le 26 janvier 1855 à Paris, rue de la Vieille Lanterne, disparu aujourd'hui sous le théâtre de la ville. Donc vous voyez qu'il est totalement parisien. C'est le lieu de sa naissance, c'est le lieu de sa mort, c'est le lieu de son errance en grande partie. Et pourtant, si on devait poser la question du lieu tel que je l'ai soumise, suggéré tout à l'heure, que la poésie était justement la recherche d'un accord entre des mots et un lieu où on vivait, eh bien on verrait que ce n'est pas Paris qui va représenter ce lieu pour Nerval. Si vous connaissez donc l'autre poème dont j'ai remarqué qu'on le connaissait encore, qui s'appelle Fantaisie, il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber, un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Je ne sais pas si j'ai besoin de le réciter en entier. Il pose justement la question du lieu par rapport au mot. Là, c'est par rapport à un air, une chanson, c'est quand même des paroles. Cette métaphore, du moins cette rencontre qui va engendrer une métaphore dans la poésie, qui est le fait qu'un air et un lieu vont permettre un déplacement. Métaphore, ça veut dire déplacement, n'est-ce pas? Donc, on entend un air et on est déplacé d'un lieu. Puisque aussitôt, il dit « Or, chaque fois que je viens à l'entendre, de 200 ans, mon âme rajeunit. C'est sous Louis XIII, et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant jaunit, puis un château de briques à coins de pierre, aux vitraux teints de rougeâtre couleur, etc. » Donc, vous voyez, il entend un air, il donnerait toute la grande musique pour cet air-là, parce que cet air va le déplacer vers un château, le lieu de son enfance, en fait. Ce système totalement proustien en littérature, n'est-ce pas, avec comme la Madeleine, on le retrouve aussi dans Sylvie. Il voit une affiche sur les jarchers de Loisy à Paris, et aussitôt il est transporté de la vie mondaine du théâtre parisien, encore au lieu de son enfance. Enfin, bon, vous connaissez Sylvie, je ne vais pas raconter ça. Simplement, on voit que le lieu parisien ne lui sert qu'à chercher à s'enfuir vers le vrai lieu. Le vrai lieu, ce serait le lieu de cette enfance, de ce château. Là, il y aura un accord possible entre les mots, la chanson populaire et le lieu où on pourrait vivre. Paris n'étant donc apparemment pas ce lieu, n'étant que le lieu du théâtre et de la fausseté des théâtreuse qu'il a fréquentée, qu'il va aussi perdre, etc. Un lieu de la perte. On verra que c'est pas seulement ça pour Nerval, mais la première ouverture apparemment pour la poésie, l'accord entre la poésie et un lieu, ce serait naturellement de fuir justement la ville, comme je l'ai évoqué tout à l'heure pour certains poètes contemporains. Ce château, pourtant, on va le retrouver également. Il va dire que c'est celui, en effet, de sa quête perpétuelle, que dans sa vie, on a plusieurs châteaux à traverser. 7, disait Nodier, dit ça dans les châteaux de Bohème. Château de Carte, château en Espagne, château de Bohème, avant de rejoindre toujours ce château de briques à coin de pierre de l'enfance, celui-là qu'il a donc connu enfant. Alors, vous demandez comment il l'a connu, parce que j'ai oublié de vous dire qu'une fois né rue Saint-Martin, il a été abandonné immédiatement par ses parents. Son père, médecin, est parti rejoindre l'armée de Napoléon, a emmené sa mère. Il n'avait pas 3 mois quand ils sont partis. Il ne reverra jamais sa mère, qui va mourir en Silésie en novembre 1811, hein, dans la froide Silésie. Ça peut-être explique son attrait ensuite vers l'Allemagne, toujours. Et il va donc être mis en nourrice dans le Valois, côté de Mortefontaine, puis vivre à Mortefontaine jusqu'à ses 7 ans. Donc c'est ce lieu de l'enfance qui serait le lieu de l'accord possible, de la poésie possible, la ville n'étant pas le lieu pour la poésie. On verra d'ailleurs que très peu de ses poèmes on nomme Paris, hein, contrairement à Baudelaire. Vous avez peut-être un poème qui s'appelle « Une allée du Luxembourg », mais il ne parle guère de Paris. Un poème sur Notre-Dame, mais qui se réfère immédiatement au livre de Victor Hugo, à des mots, pas à un lieu d'existence. Il va pourtant revenir à Paris. Son père va rentrer quand il a 7 ans, va le chercher, ça va mal se passer. Il va quand même revenir à Paris, être élève au lycée Charlemagne. Donc connaître bien ce coin, être en pensionnaire rue de Jarente. Son père finira, après avoir eu un cabinet rue Saint-Martin, par en avoir un rue de Sévigné. Il est donc tout à fait du coin. Et il a, comme je vous l'ai dit, il est né, mort dans ce centre de Paris, sur la rive droite. C'est donc un de ses lieux. Et pourtant, jamais ce lieu ne va accéder à la poésie. J'exagère peut-être un peu, parce qu'il y a quand même des textes où il va évoquer Paris comme un lieu possible, mais en disant « j'aime beaucoup Pontoise ou Chantilly ou Saint-Germain, parce que ça me rappelle le Paris de ma jeunesse. Hein, à Saint-Germain, je retrouve le Paris de 1830, la forme des boutiques, etc. » À Chantilly, je retrouve, je crois, Chantilly, le Paris de 1820. On voit que Paris ne peut devenir un lieu que projeté à nouveau dans l'enfance, comme un souvenir, comme un rêve, donc, qui n'a pas grande différence, et non pas, encore une fois, comme un lieu où on peut exister, on peut vivre en accord avec le lieu. Donc ici, on regardait quel est le Paris de Nerval. J'avais dit que la tradition ici est de lire des textes. Je pourrais quand même en lire un ou deux. Il y a un texte où il évoque Montmartre. Ça commence comme ça. « Il est véritablement difficile de trouver à se loger dans Paris. » Ça n'a pas beaucoup changé. « Je n'en ai jamais été si convaincu que depuis 2 mois. Arrivé d'Allemagne, après un court séjour dans une villa de la banlieue, je me suis cherché un domicile plus assuré que les précédents, dont l'un se trouvait sur la place du Louvre et l'autre dans la rue du Mail. Je ne remonte qu'à 6 années. Évincé du premier avec 20 francs de dédommagement que j'ai négligé, je ne sais pourquoi, d'aller toucher à la ville, j'avais trouvé dans le second ce qu'on ne trouve plus guère au centre de Paris. Une vue sur 2 ou 3 arbres occupant un certain espace qui permet à la fois de respirer et de se délasser l'esprit en regardant autre chose qu'un échiquier de fenêtres noires où de jolies figures n'apparaissent que par exception. » Qu'est-ce qu'il cherche dans Paris, hein? Quelques arbres, un lieu désert, isolé du monde, donc pas du tout parisien en soi, c'est-à-dire seulement un appel vers encore le lieu de son enfance, celui de la couleur. Qu'est-ce que c'est Paris? Un échiquier de fenêtres noires, un échiquier, c'est-à-dire un ensemble de carrés noirs et blancs, donc ça rappellerait la nuit noire et blanche pendant laquelle il va mourir. Vous savez peut-être, c'est la dernière phrase qu'il a écrite, hein. Il était logé, soi-disant, chez sa tante. Il avait réussi à imposer au docteur Blanche de le laisser quitter la clinique, raconte chez le docteur Émile Blanche, après avoir fait un petit séjour, entre parenthèses, à Montmartre, dont j'allais parler à l'instant, chez le père de Émile Blanche, Esprit Blanche, hein, dans sa première crise de folie, puis sa deuxième grave en 52, 53, 54. Il va réussir à sortir de la clinique en 54. Le docteur va accepter, parce qu'on va lui imposer de le laisser sortir. Il va demander une garantie comme quoi quelqu'un va le loger, car il sait qu'il n'a nul lieu où aller. Et en fait, Nerval va être un vagabond erré dans les rues, logé et couché dehors ou dans des asiles de nuit par-ci par-là, et pas tellement chez cette tante. Toujours est-il que le 24 janvier 1855, d'après Arsène Housset, et peut-être le 25 janvier, il va laisser ces mots à sa tante: « Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche. » Et ce seraient donc les derniers mots qu'il a écrits. C'est Arsène Housset qui a dit ça, on n'a pas la lettre, mais Arsène Housset n'aurait jamais trouvé cette phrase tout seul, donc on peut penser que c'est vrai. Et la nuit noire et blanche, on sait qu'en quoi il fut noir cette nuit. Il s'est pendu dans la rue la plus noire qu'il put trouver, comme a dit Baudelaire. On aimerait bien savoir, cette nuit-là, par quoi fut-elle blanche. On va essayer d'en dire deux mots maintenant. Enfin, ceci uniquement pour dire que la ville, Paris, c'est noir et blanc. Dès qu'il sort, c'est la couleur qui apparaît, le couchant, un coteau vert, que le couchant jaunit. Vous allez voir, si je continuais, c'est que les seuls signes qu'il cherche dans Paris, ceux qui sont rares, c'est la verdure, c'est les oiseaux, c'est tout ce qui n'est pas parisien par rapport au Paris de Baudelaire. Il dit « J'aime mieux tel horizon, à souhait, pour le plaisir des yeux, comme dirait Fénelon, où l'on peut jouir soit d'un lever, soit d'un coucher du soleil, mais plus particulièrement du lever. Le coucher ne m'embarrasse guère. Je suis sûr de le rencontrer partout ailleurs que chez moi. Pour le lever, c'est différent. J'aime à voir le soleil découper des angles sur les murs, à entendre au dehors des gazouillements d'oiseaux, fût-ce de simples moineaux francs. Rétri offrait un louis pour entendre une chanterelle. Je donnerais 20 francs pour un merle. Les 20 francs que la ville de Paris me doit encore. J'ai longtemps habité Montmartre. C'est là, en fait, quand il dit « j'ai longtemps habité Montmartre », il veut évoquer la clinique où il a passé, en effet, plusieurs mois. Il n'a jamais habité longtemps nulle part, Nerval, sauf un lieu dont on va parler juste après. C'est la clinique qu'il évoque. Mais « j'ai longtemps habité Montmartre ». Quand il est à la clinique du fils, 10 ans plus tard, il dit à son père « je suis à la campagne chez des amis, il est à la clinique à Passy ». On y jouit d'un air très pur, de perspectives variées, et l'on y découvre des horizons magnifiques. Soit, qu'ayant été vertueux, l'on aime à voir lever l'aurore, qui est très belle du côté de Paris. Soit qu'avec des goûts moins simples, on préfère ces teintes pourprées du couchant, où les nuages déchiquetés et flottants peignent des tableaux de bataille et de transfiguration au-dessus du grand cimetière, entre l'arc de l'étoile et les coteaux bleuâtres qui vont d'Argenteuil à Pontoise. Ça continue comme ça, et vous voyez encore une fois que les seules choses qu'il aime dans Paris, ce sont les appels à quitter Paris. Que Paris ne viendra jamais le lieu de la vie. En revanche, comment peut-il devenir un lieu pour la littérature? C'est que ce qui l'oppose à la nature, la terre qu'il aime, ce sont les labyrinthes des ruelles. Il y a tout un texte qui s'appelle « Les nuits d'octobre » où il erre justement à travers Paris. C'est un texte ironique sur un ton très léger. N'empêche qu'on y voit apparaître par-ci par-là le mot de purgatoire, le mot d'enfer, des citations de Dante, etc. Comme s'il prévoyait déjà l'histoire de sa descente aux enfers. Donc comme si sur un ton joyeux, il racontait déjà ce qui sera plus tard Aurélia. Vous savez qu'Aurélia, c'est aussi la volonté de reprendre le Dante, la Divine Comédie, avec l'idée d'une descente aux enfers. Or là, on voit que même dans ce qu'il raconte sur Paris, sur les cafés, sur la vie de fêtard qu'il a eue longtemps, eh bien, on voit les mots apparaître de purgatoire, d'enfer, comme si Paris était le lieu même de l'enfer. Or, si vous avez écouté aussi bien ce texte, il y a un mot, c'est celui de transfiguration. Pourquoi ce mot? Parce que quand il va être victime de sa première crise avérée de folie en 1841, il va se trouver à la clinique du docteur Blanche, mais celle de Montmartre, dont on vient de parler, celle du père. Pendant longtemps, on ne savait pas qu'il y avait eu une révélation, qu'il y avait écrit des poèmes. Il y avait un manuscrit qu'on connaissait de 6 poèmes, qui sont presque des préfigurations des chimères, publiés seulement en 1854, de la fin de sa vie. Or, on sait maintenant qu'elles ont été écrites pendant son séjour à la clinique en 1841. Or, elles sont déjà les prémices des chimères. D'autre part, il y a quelques années, pas très longtemps, des gens dans un grenier du sud-ouest de la France ont informé Pichois qu'il venait de trouver une lettre de Nerval, ce que ça l'intéressait. Évidemment, Pichois a fait le voyage et cette lettre était totalement extraordinaire puisqu'elle était le récit par Nerval de sa première crise de folie. Et elle commençait comme ça, « Oh, mon cher Loubin, est-ce que vous avez dû être étonné de tout le pauvre bruit que j'ai fait il y a quelques mois, mais jugez de ma surprise à moi-même lorsque je me suis éveillé d'un rêve de plusieurs semaines aussi bizarre qu'inattendu. J'avais été fou, cela est certain. Si toutefois la conservation complète de la mémoire et d'une certaine logique résonante qui ne m'a pas quitté un seul instant ne put revêtir d'autre caractère que ce triste mot « folie ». Pour les médecins, c'était cela sans doute, même s'ils se sont toujours servis à mon égard de synonymes plus polis. Pour mes amis, cela n'a guère pu avoir d'autre sens. Pour moi seul, ce n'était qu'une sorte de rêve éveillé. Une suite de visions grotesques et sublimes, mais une transfiguration de mes pensées habituelles. Or, ce mot de transfiguration m'avait frappé, peut-être parce que j'ai une fâcheuse tendance à confondre la critique littéraire et la théologie, mais... Transfiguration, c'est un mot qui évoque peut-être pour beaucoup l'illumination des apôtres sur une colline quand le Christ leur apparaît soudain dans sa gloire entre Moïse et Élie. Ils demandent là à rester, ils sont trois apôtres. Or, dans les icônes même, on voit que c'est le revers lumineux du moment du calvaire où le Christ va se retrouver, pas du calvaire, du jardin des Oliviers, où le Christ se retrouve à nouveau seul avec les trois mêmes apôtres, lesquels dorment pendant que lui a la révélation qu'il est abandonné de Dieu, hein, qu'il éloigne de moi ce calice, etc. Or, un des 12 poèmes que Nerval a écrit à ce moment-là, c'est le Christ aux Oliviers, et donc ce mot de transfiguration, de moment lumineux dans lequel tout d'un coup, dans la poésie, les mots seraient auréolés de feu, comme les passants soudainement auréolés dans la lumière du soir, ou la boue changée en or chez Baudelaire, eh bien cet instant d'illumination, il n'a pas été écrit par Nerval. Ce qu'il a écrit dans le même moment, en parlant de transfiguration, c'est le moment noir, le calvaire. Or, ça m'a frappé qu'il emploie ce mot transfiguration à propos de Montmartre, parce que si vous relisiez Aurélia, vous verriez aussi que la ville réapparaît, mais alors purement comme une allégorie, mais il y a aussi, sortie de la ville noire et blanche, une ville au-dessus, exactement comme ce qu'il dit de Montmartre, où là, les sages peuvent vivre dans la nature, dans la verdure, au-dessus de la ville, comme si il y avait en effet une ville qui se transfigurait sur sa colline, et comme si la ville qui était l'enfer, elle avait aussi un revers lumineux transfiguré dans son rêve. Dans la première partie d'Aurélia, vous avez cette image extraordinaire d'une ville dans laquelle les habitants sages se sont recueillis, non pas sous la ville, comme en général on l'imagine qu'il y a des sociétés secrètes qui vivent sous terre, mais au-dessus, sans que personne ne vienne les déranger dans leur hauteur. On voit qu'en fait, chez Nerval, ce qui se passe, c'est que la ville, quand elle entre en poésie, elle entre comme une métaphore du texte lui-même, parce que les labyrinthes, bien sûr, sont perpétuellement une métaphore de la ville, c'est-à-dire qu'elle y entre non pas comme un lieu d'existence, mais comme un mythe, ce qui est une mode au XIXe siècle. Il y a un grand professeur allemand qui vient d'écrire un livre gros comme ça, qui s'appelle « Le mythe de Paris ». Il montre comment Paris devient un mythe, c'est-à-dire comment la ville n'est plus reconnue comme ce lieu où on pourrait vivre, mais comme du langage, déjà. Vous avez aussi d'innombrables métaphores de la ville comme bibliothèque. Vous en trouvez chez Apollinaire ou bien chez Walter Benjamin, qui dit même que la Seine coule dans une bibliothèque. La ville est une bibliothèque. Donc, dire que la ville contribue au mythe de Paris, c'est prendre la ville déjà comme du langage et non pas l'accepter comme un lieu où vivre. Chez Nerval, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous lisez Aurélia, vous voyez que c'est bien une errance dans Paris. Hein, cette première crise, elle est dans Paris, chez des amis, qu'il est pris d'excitation. Il va sortir, il va voir une étoile, il va lui dire « Non, je ne rentre pas », va-t-il dire à son ami. Hein, « Je vais vers l'Orient, ma patrie », dit-il dans une autre version. C'est bien à travers les rues que cela se passe, comme si tout devenait signe et non plus présence, pour prendre un mot que Bonnefoy opposerait à celui de signe. Tout devient signe dans la ville. Un numéro au-dessus d'une porte, ça va signifier sa mort. C'est la ville qui est devenue un langage, et dans ce cas-là, elle peut entrer en poésie, mais jamais comme, encore une fois, le lieu où vivre. Or, ce qu'on va voir avec Baudelaire, c'est que lui, il va accepter la ville telle qu'elle est et refuser de ne voir que la surface des signes pour l'accepter comme un lieu où on peut encore rencontrer les autres. Ce que Nerval ne fait pas quand il passe son temps à les changer en images, même si dans la guérison qui apparaît dans Aurélia, il y a un moment aussi la rencontre d'un autre qui semble la guérison, avec même le retour, hein, après la multiplication des dieux du paganisme et des multiplications de ses propres identités, on voit qu'une unité semble se reformer, une guérison semble possible, avec encore une fois ce mot de transfiguration, mais pas employé pour la ville, employé encore une fois pour l'Himalaya, pour la nature, pour la terre, hein, comme si la ville était vraiment, si on voulait se réconcilier avec soi, un lieu à fuir, un lieu infernal. Je disais que chez Baudelaire, ça n'allait pas se passer comme ça, parce que lui, ce n'est pas du tout qu'il refuse l'idée que la ville est une grande prostituée ou qu'elle est le lieu infernal. Si vous lisez l'épilogue du Spleen de Paris, qui, enfin, du moins publié comme épilogue du Spleen de Paris, c'est-à-dire des poèmes en prose dans la première édition, celle d'Asselineau en 1868, vous avez un épilogue en vers, on se demande pourquoi. En fait, probablement l'épilogue des Fleurs du Mal, puisqu'on sait que Baudelaire voulait écrire un épilogue, et qu'on en a un projet qu'on peut parfaitement rapprocher de l'autre, en étudiant la forme même du poème, eh bien, vous verrez que c'est probablement l'épilogue des Fleurs du Mal, et non pas du Spleen de Paris, ce poème. Il se situe aussi à Montmartre, probablement, peut-être au Butte-Chaumont, puisque Baudelaire avait le projet d'un poème au Butte-Chaumont. Ça commence comme ça. Hein. « Le cœur content, je suis monté sur la montagne, d'où l'on peut contempler la ville en son ampleur. Hôpital, lupanard, purgatoire, enfer, bagne, où toute énormité fleurit comme une fleur. Tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse, que je n'allais pas là pour répandre un vain pleur, mais comme un vieux paillard d'une vieille maîtresse, je voulais m'enivrer de l'énorme catin dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. Que tu dormes encore dans les draps du matin, lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes dans les voiles du soir passementé d'orfin. Je t'aime, ô capitale infâme, courtisanes et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs que ne comprenne pas le vulgaire profane. Vous voyez qu'il a bien conscience du satanisme, que l'idée de grande prostituée est bien là, avec énorme catin, etc. Sauf que cette ville, il va accepter de l'affronter, de la transmuer, de la transfigurer dans sa réalité, et non pas de n'y chercher que des rêves, hein, même s'il sait qu'elle est cité pleine de rêves, d'enchantements, etc. Il va traverser la surface des images qui produisent les rêves pour affronter comme un lieu de l'incarnation. Bon. Ce qu'on pourrait dire d'abord, c'est que peut-être des chances de le faire plus que Gérard de Nerval, parce que lui, la nature, comme lieu des correspondances, comme telle qu'elle l'était pour Nerval, on sait, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres, etc., qu'on retrouve dans, chez Nerval, c'est une pensée qui n'était peut-être pas la sienne, malgré tout ce qu'on apprend à l'école, là-dessus, sur les correspondances chez Baudelaire. Hein, imaginez qu'en 53-54, on lui demande un texte sur la nature pour rendre hommage à un écologiste de l'époque qui s'appelle Debucourt, un personnage qui s'appelle Desnoyers qui lui demande ça. Il dit « Quoi, vous me demandez à moi des vers sur la nature, les arbres, les grands chênes, la verdure, les insectes, le soleil sans doute ?» Et il lui dit « Sachez que je suis totalement étranger à cette religion nouvelle qui veut que l'âme des dieux habite dans les plantes. » Et il ajoute, même si elle y habitait, eh bien la mienne me paraîtra toujours d'un intérêt plus grand que celle des légumes sanctifiés. Donc, c'est clair, il n'a exactement dit-il, que faire de la nature ? Mais il ajoute plus précisément, d'abord, ce qu'il envoie comme poème, ne pouvant remplir complètement sa tâche, dit-il, il envoie deux poèmes qui sont les deux crépuscules de la grande ville, le crépuscule du matin, le crépuscule du soir, qui seront repris dans la deuxième édition des Fleurs dans les tableaux parisiens, le crépuscule du matin étant même le dernier des poèmes, qui sont donc consacrés totalement à Paris. Et voilà ce qu'il répond, il dit, moi, quand je suis dans les bois, hein, sous ces voûtes semblables à celles des sacristies ou des cathédrales, reprenant des mots de Chateaubriand, eh bien, ce que j'entends, c'est la musique qui roule sur les sommets, c'est, il dit, je pense à nos étonnantes villes, et la musique qui roule sur les sommets me semble rappeler les lamentations humaines, etc. Donc, même dans les bois, c'est la ville qui l'occupe, et c'est la ville qui va être son lieu à lui, donc, il n'aime pas, dit-il, la nature, et donc c'est plus facile pour lui, en effet, de choisir comme lieu où vivre la ville. Sauf que dire que c'est la ville qui va être son être dans, puisqu'on a parlé tout à l'heure de laisser in, hein, ça serait aussi une drôle de façon de voir, puisqu'on sait que Baudelaire va y vivre comme un nomade, c'est ce qu'il dit toujours, il va avoir 44 adresses à Paris, il va errer sans arrêt presque autant que Nerval, sauf que Nerval, on sait qu'en plus, il n'habitait pas à ses adresses, donc c'est encore... Mais Baudelaire 44, ça suffit pour comprendre qu'il avait la même maladie, qui est celle de l'horreur du domicile. Hein, même s'il y a une aspiration à trouver ce lieu où on pourrait être bien, eh bien, il n'a pas non plus trouvé dans Paris. Sauf que lui, il a remplacé l'idée du demeurer par l'idée que l'errance, c'était ça, la fonction de la ville, et que ça correspondait parfaitement à ce qu'il était, puisque son but était d'être toujours ailleurs que là où il était. Donc la ville, c'était parfait pour ça, puisque c'est un appel à la circulation perpétuelle. Donc je dis qu'il avait la tâche facilitée. Quand je viens d'évoquer les correspondances, ça me permet de tricher un peu avec ce qu'on dit à l'école, puisque à l'école on nous apprend que les correspondances, hein, ce poème qui commence « La nature est un temple de vivants piliers » laisse parfois sortir de confuses paroles, enfin vous connaissez tout ça je suppose, hein, les parfums, les couleurs et les sons se répondent, on voit bien comme Baudelaire aimait la nature, je viens de vous dire qu'il vient de dire « Je ne crois pas que l'âme des dieux habite dans les plantes », donc c'est pas ça qu'il voulait dire. Alors si c'est pas ça, si c'est la ville qu'il entend, même dans les bois, même dans la nature, il faut chercher peut-être aussi des images de ville dans ce poème-là. Vous avez le mot transport à la fin qui chante les transports de l'esprit et des sens. Donc correspondance, c'est un mot qui évoque les transports. Métaphore, ça veut dire transport, c'est un poème sur la métaphore. Donc c'est un poème sur les moyens de transport dans les villes. C'est donc dans le métro qu'il faut comprendre correspondance plutôt que en cherchant le langage des fleurs et des choses muettes ou bien le pur esprit qui s'accroît sous l'écorce des pierres comme chez Nerval. On aurait pu montrer que dans Aurélia, il y a un peu le même fonctionnement de correspondance. D'abord, le mot de correspondance, c'est très souvent chez Nerval employé à propos des voitures aussi. Hein, la correspondance pour Senlis, la correspondance. C'est un mot qui était apparu avec les omnibus au début du 19e. Donc c'est pas une pure tricherie de le dire, mais non seulement c'est pas une tricherie, mais si vous regardez la préface du Spleen de Paris, hein, quand Baudelaire dit qu'il n'a rêvé d'une prose poétique et musicale assez souple et assez heurtée pour s'adapter au mouvement lyrique de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience, hein, il ajoute « c'est de la fréquentation des villes énormes, du croisement de leurs innombrables rapports ». Que naît cet idéal obsédant ? Il n'est pas difficile de rapprocher le mot croisement de rapport dans les villes du mot correspondance dans le métro ou dans les omnibus. Et donc, c'est bien l'idée que ce réseau de croisement, de rencontres possibles ou impossibles dans la ville, c'est ça l'univers de la ville que Baudelaire va célébrer, plus que la nature, les oiseaux ou les insectes, qui avaient l'air pire encore. Pour lui, quand il disait sa détestation à des noyers, comme on l'a vu. Donc, ça serait un point. Ce que Baudelaire va donc chercher dans la ville, c'est le passage, le mouvement. Il va saluer la ville comme l'invention de la foule, donc du mouvement perpétuel. Quand il va écrire le poème que j'ai cité tout à l'heure, on va voir que la passante, on voit que c'est bien l'histoire du mouvement et des rencontres impossibles apparemment de la ville, mais que le poète lui peut sauver comme un instant d'éternité, Ça commence comme ça. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais crispé comme un extravagant dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Vous avez donc une vision parfaite de ce que j'ai dit tout à l'heure, du mouvement dans la ville, des croisements impossibles, des rencontres impossibles apparemment, sauf que le mot « amour » apparaît quand même, et que si on regardait un certain nombre des autres poèmes, on va voir que c'est à ça qu'il va s'acharner, à saisir la possibilité de l'amour dans cette situation apparemment impossible quand même, avec des poèmes les plus beaux, et en tout cas les plus pleins de compassion qu'on connaisse à l'intérieur même de la ville, comme si la ville était bien un lieu d'incarnation possible. Quand j'ai parlé de mots transfiguration à propos de Nerval tout à l'heure, dans la même lettre, il parlait plus loin de sa triste incarnation, comme si Nerval, il avait besoin de se défaire de son corps, hein, comme un gnostique qui aurait été égaré dans un corps, dans cette enveloppe qui lui a nuit, qui l'a empêché de rejoindre la ville au-dessus, le ciel, les étoiles, etc. Et que peut-être cette nuit noire où il est mort, si elle fut blanche, c'est peut-être par l'idée qu'il avait qu'il fallait se débarrasser de l'autre en lui qui était son corps, et que l'incarnation n'a jamais été admise réellement chez lui. Or, si vous regardez ce qui se passe chez Baudelaire avec l'apparition de Paris, justement, vous voyez que ce qui avait été gnostique chez Baudelaire aussi, même peut-être jusqu'aux correspondances, parce qu'on n'est pas quand même obligé de le lire uniquement en fonction du métro, hein, toute cette pensée qu'il y a des signes qui vont nous signifier un monde et que le monde qui est là n'est pas celui qui compte, qu'il y a un lieu, le monde réel, celui du spleen, et puis qu'il y a un idéal que le poète aurait à rejoindre. C'est ça aussi qu'on apprenait à l'école avec l'albatros, par exemple. Hein, vous avez le monde, le prince des nuées, et puis le poète qui est exilé sur le sol, comme l'albatros, hein, que ses gels de géants l'empêchent de marcher. Bon, il y a deux mondes, Baudelaire est un gnostique, et donc la poésie, c'est de fuir anywhere out of the world, rejoindre l'idéal quelque part. Mais si vous voyez apparaître, et d'abord ils apparaissent dès la première édition des Spleen et Idéal, ces poèmes-là que j'ai cités tout à l'heure, les Crépuscules de Paris ou un certain nombre d'autres, ils sont déjà là, dans le Spleen et Idéal, dans la première édition en 57, mais en 61, Baudelaire rajoute une partie au Fleur du Mal, les Tableaux parisiens, où il reprend un certain nombre de ses poèmes qu'il regroupe avec de nouveaux poèmes, presque tous écrits en 1859, sous le titre Fantôme parisien, concerne les petites vieilles, les sept vieillards. Probablement le signe aussi, même s'il réécrit, et ça c'est mon avis, s'il réécrit l'Albatros, alors que c'est un poème de jeunesse, en 1859, sur sa table de Honfleur, là-bas, où il a voulu fuir Paris lui aussi, et où il s'aperçoit que c'est Paris son vrai lieu où il va rentrer, eh bien, il écrit des poèmes parisiens à Honfleur. C'est Paris, c'est le contraire de Nerval, exactement. Lui, il a trouvé un lieu au fuir, mais c'est Paris qui le rappelle, qu'en Nerval, à Paris, il n'a que les appels du dehors. Eh bien, quand il réécrit l'Albatros, c'est peut-être parce que justement il a cet autre oiseau en exil qui est celui du cygne dans la tête et qu'il veut l'opposer, que le monde du spleen et de l'idéal s'est terminé, il n'y a plus que le spleen lui-même. Et s'il y a un idéal, il est à retrouver dans ce spleen, dans cette existence-là, dans la ville, comme si le prince des nuées était descendu dans le cygne, mais que c'était dans son incarnation qu'il devenait maintenant le symbole de la beauté. Ce cygne, il était aussi un des symboles de la beauté idéale. Hein, j'unis un cœur de neige à la blancheur du cygne, disait-il dans le poème La Beauté. Eh bien, maintenant, c'est dans la rue, on l'a vu, hein, c'est une passante, elle est noire, c'est plus la blancheur du cygne, elle est en deuil, elle est dans la douleur, alors que l'autre ignorait tout de la douleur. C'est donc quelque chose puisque je fais encore de la théologie, quand Baudelaire dit « tout poète véritable doit être une incarnation », il va bien chercher son mot dans la théologie. Vous avez entendu « douleur majestueuse » dans le poème à une passante. Le fait d'ajouter la majesté à la douleur, c'est encore quelque chose de totalement chrétien, sans doute, chez lui, qui est sanctifier le moment de la douleur comme pour une résurrection, pour un salut. J'ai dit que chez Baudelaire, il n'y a pas de nostalgie, que Baudelaire a accepté la ville moderne telle qu'elle est. J'exagère aussi un peu. Quand Baudelaire dit qu'il va chercher l'essence du présent, qu'il va chercher l'éternité du fugitif, l'éternité du transitoire, il y a bien quand même une éternité qui est cherchée, un infini qui est cherché dans l'instant. Et il va bien savoir lui aussi que cette surface à laquelle il est contraint de se contenter, et même ses regards qui ne parlent pas, eh bien, ce n'est pas ça non plus qui permet l'amour, hein, seulement le rêve de l'amour, comme on l'a vu avec une passante. Et donc, il va bien y avoir aussi un retour d'une histoire quelque part, comme dans Les Petites Vieilles ou dans Le Cygne, on pourrait le montrer. Et que donc, il y a aussi une nostalgie qu'on a le droit de lire dans Le Cygne, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut peut-être aussi lire Le Cygne, puisque c'est un des plus beaux poèmes qui soit. Andromaque, je pense à vous, ce petit fleuve, pauvre et triste miroir où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit, a fécondé soudain ma mémoire fertile, comme je traversais le nouveau carrousel. Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques, ce tas de chapiteaux ébauchés et dessus, les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques, et brillant au carreau le bric-à-brac confus. Là s'étalait jadis une ménagerie. Là je vis un matin à l'heure où sous les cieux froids et clairs le travail s'éveille, où la voirie pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux, un cygne qui s'était évadé de sa cage, et de ses pieds palmés frottant le pavé sec, sur le sol raboteux traînait son blanc plumage, vers un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec, semblait dire, le cœur plein de son beau lac natal, « Oh, quand donc pleuvras-tu, quand tonneras-tu, foudre ?» Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal, vers le ciel quelquefois comme l'homme d'Ovide, vers le ciel, ironique et cruellement bleu, sur son cou convulsif, tendant sa tête avide, comme s'il adressait des reproches à Dieu. Paris change. Mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Aussi, devant ce Louvre, une image m'opprime. Je pense à mon grand cygne avec ses gestes fous, comme les exilés, ridicules et sublimes, et rongés d'un désir sans trêve, et puis à vous, Andromaque, des bras d'un grand époux tombé, vil bétail sous la main du superbe Pyrrhus, auprès d'un tombeau vide, en extase courbé, veuve d'Hector, hélas, et femme d'Hélénus. Je pense à la négresse amaigrie et phtisique, piétinant dans la boue et cherchant l'œil hagard les cocotiers absents de la superbe Afrique, derrière la muraille immense du brouillard. À ceux qui ont perdu ce qui ne se retrouve jamais, jamais, à ceux qui s'abreuvent de pleurs et têtent la douleur comme une bonne louve, aux maigres orphelins séchant comme des fleurs. Ainsi, dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps. Je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore. Alors, c'est le seul lieu que Baudelaire a nommé dans Les Fleurs du Mal. Donc, profitons-en quand on parle de Paris. Paris est omniprésent, mais il n'y a pas, à part peut-être Tivoli et Frascati dans Les Petites Vieilles, on ne voit aucun lieu qui soit nommé de Paris, sauf celui-là, le nouveau carrousel. Or, c'est le lieu où a habité Nerval. Vous avez entendu d'ailleurs dans le texte que j'ai lu, j'ai habité dans la cour du Louvre. Il a habité deux fois dans la cour du Louvre. D'abord, impasse du Doyenné, où il vivait un peu en communauté avec Camille Rogier, Théophile Gautier habitait juste à côté. Et c'était le moment heureux à Paris pour Nerval, celui-là. La vie de Bohème, le château de Bohème, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Puis, il va déménager pour la rue Saint-Thomas du Louvre, un peu plus loin. Et là, c'est de là qu'il sera expulsé par la ville de Paris pour 20 francs. Qu'il n'est donc jamais allé toucher à la ville de Paris. Alors, ce quartier va être rasé. Pourquoi? Parce que, imaginez aujourd'hui la cour carrée, la cour Napoléon, la pyramide, les deux ailes qui vont jusqu'au jardin des Tuileries, les Tuileries qui ont disparu. À ce moment-là, c'est le contraire, c'est fermé au bout par les Tuileries, entre la Seine et l'aile du musée des arts décoratifs actuellement, à cet endroit-là. C'est donc fermé jusque-là, vous avez la cour carrée, la galerie au bord de l'eau le long de la Seine qui rejoint les Tuileries perpendiculaires, puis le commencement de fermeture qui a été commencé sous Napoléon Ier avec le début de la rue de Rivoli, mais tout le reste, tout ce qui est actuellement, qui a été ouvert comme musée à la place du ministère des Finances, tout ça, ça n'existe pas. Et là, la ville rentre complètement dans la cour du Louvre et il y a des maisons et des gens qui habitent là, dont Nerval, qui a choisi cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il est abandonné. Étant donné que le projet est déjà avancé de raser ce quartier, mais il est abandonné, il y a donc de la verdure, des arbres qui poussent, encore une fois, c'est ça qu'il recherche, et il y a vécu une vie heureuse, de fêtes, de bals. Seulement, quand il raconte ça, il dit aussi, hein, « Mais j'ai fait vibrer la corde sombre, notre palais est rasé, j'en ai foulé les débris l'automne passé. Quand on coupera les arbres du manège, j'irai réciter sur la place la forêt coupée de ronsards. » Donc vous voyez, encore une fois, lieu de nostalgie. Pourquoi? Parce que le quartier va être détruit, ça va être les premiers travaux d'Haussmann, hein, fermer le Louvre. Haussmann va dire, ce fut une grande satisfaction pour moi que de raser tout cela pour mes débuts à Paris. Donc Haussmann arrive et première satisfaction, on rase le Louvre, après il ne va pas se priver de raser pas mal d'autres quartiers comme ça. Bien, Nerval, il a évidemment une nostalgie. Pour Nerval, ça rejoint encore une fois comme métaphore une destruction qui s'est produite dans son propre esprit, la perte de l'enfance, du paradis, la perte de ce moment heureux de sa jeunesse. Nous étions jeunes, toujours gais, hein, on donnait des balles, etc. Eh bien, la gaieté elle-même, elle est perdue. On pourrait imaginer que ce palais est détruit. C'est aussi celui qu'on retrouve comme tour abolie dans le Lady Shadow. Je suis ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. C'est une des tours abolies, en tout cas, puisqu'il parle de ce château de Bohème. C'était un ensemble de taudis, naturellement, abandonné. Mais lui, pour lui, c'est un palais. Donc, c'est bien quelque chose d'autre qui a été détruit. Et si on continuait le Lady Shadow, on verrait qu'aussitôt, le lieu encore vers lequel il va être porté, c'est, pour moi, le Posilip, la mer d'Italie, en tout cas, encore une fois, hors de Paris. Quand on utilise ces mots de Baudelaire pour évoquer aussi la nostalgie de la destruction, hein, le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Si on a suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut imaginer que ce n'est pas la même nostalgie chez Baudelaire. Il accepte le changement, que Paris change, et ce qu'il ressemble regretter, le hélas, j'ai dit tout à l'heure, semble porter plutôt sur le fait que sa mélancolie, elle, ne change pas aussi vite que la ville. Quand il écrit son texte sur la modernité, qui commence à écrire deux ans après les tableaux parisiens, au moment même où paraît la deuxième édition des Fleurs du Mal en 61, il écrit un texte sur Constantin Guy qui est un salut à la modernité, à la vitesse, au mouvement, à la foule, etc. Une jubilation de l'instant dans la ville. Donc, on peut imaginer qu'il a déjà ça dans le texte, c'est pas pure nostalgie. Mais de quoi, alors, est la nostalgie? Non pas de l'architecture ou du vieux Paris chez Baudelaire, mais de l'exil dans lequel cette ville moderne finit par conduire les êtres qui y sont. Parce que la décrire comme le pur lieu d'un être vert en mouvement perpétuel sans rencontre, eh bien c'est perdre toute possibilité de relation avec les autres, c'est ce que j'ai évoqué. Or il me semble que dans le Cygne, c'est bien ça qui est décrit, c'est que peut-être qu'il n'a pas de nostalgie à l'idée du Paris détruit, mais peut-être qu'il en aurait à l'idée du Nerval exilé dans la ville, mais à tous ceux qui le sont à ce moment-là exilés, et en particulier aux pauvres qui sont rejetés par la richesse des travaux d'Haussmann. Ça se voit par exemple dans un poème comme Les yeux des pauvres, il est justement dans un café riche, dont il décrit le décor parfait de Second Empire, Sauf qu'il y a des pauvres qui sont restés dehors, et c'est ça qui va l'occuper, lui. Comme quand il décrit les concerts avec les veuves, toujours dans le spleen de Paris, celle qui l'occupe, c'est la veuve qui est restée dehors, qui ne goûte que les lambeaux de musique, qui ne participe pas à la fête. Or, toute sa poésie va être, du moins celle des tableaux parisiens, de chercher à célébrer ceux qui sont rejetés, et en particulier les exclus du luxe de la nouvelle ville. Si on lit le signe comme ça, on comprend mieux ce qui se passe, cet attrait vers tous ceux qui sont rejetés. Un peu d'histoire littéraire quand même, parce que je sais que le début est particulièrement mystérieux. Andromaque, je pense à vous, ce petit fleuve, pauvre et triste miroir où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit a fécondé soudain ma mémoire fertile comme je traversais le nouveau carrousel. Je reconnais que c'est assez mystérieux. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il y a au moins trois temps dans le poème, si ce n'est plus. Il traverse le palais neuf. Il est devant le palais neuf, et c'est pas ça qui l'émeut. Il n'a rien à en dire. Il y a des poètes qui ont salué ce palais neuf, comme Théodore de Manville, un de ses amis, qui a écrit une ode au Nouveau Louvre, ou bien même Théophile Gautier, son autre ami. Il considère que Haussmann, c'est un progrès. Et d'ailleurs, on est bien obligé d'accepter que c'est vrai, parce que cette ville-là, je ne sais pas comment on y vivrait aujourd'hui. Ça va bien sur les photos, mais on n'a pas l'odeur avec, on n'a pas les encombrements qui seraient pires, qui seraient totalement invivables aujourd'hui. Ce serait mort. Donc, c'est pas ça qu'il ne salue pas Baudelaire. Mais il se remémore devant ce palais neuf les travaux, les échafaudages. Obsession de Baudelaire. On pourrait retrouver un autre texte écrit à propos de Mérion où les échafaudages apparaissent aussi, encore une fois comme le signe accepté de la modernité, puisqu'il en salue même la beauté paradoxale, comme s'il y avait une fragilité qui s'opposait à l'éternité de la pierre, et éternité dont on a la preuve qu'elle ne l'est pas, puisque tout se rase à ce moment-là. Donc on avait aussi un mensonge à croire que la ville durait quand les êtres ne faisaient que passer. Donc il va saluer l'échafaudage au même titre que la pierre. N'empêche qu'il va ajouter dans ce texte-là sur Mérion, c'est que la ville s'approfondit, la profondeur des perspectives a augmenté de tous les drames qui y sont contenus. On voit donc que c'est bien une histoire qui réapparaît aussi, l'histoire des drames, l'histoire encore une fois des autres. C'est bien ça que lui, il recherche, ce que j'ai appelé son incarnation, son acceptation, qu'on est dans un lieu, dans un corps, qu'on vit avec d'autres, et que si la rencontre doit être perdue, eh bien il faut tenter de la rattraper dans la poésie. Alors, il est dans le palais neuf. Il se remémore les travaux, palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, puis le vieux Paris, qui revient comme le vieux quartier du Louvre. Il remonte dans le temps. Mais ce moment-là, ou pendant les travaux, ou même avant, là c'était jadis une ménagerie, donc c'est plutôt au moment où le quartier a été habité, il a vu un signe en exil. Mais ce moment-là de l'exil, il va encore une fois le déplacer pour le faire recouper un autre moment de l'histoire, celui d'Andromaque. Andromaque, c'est celle de Virgile. On la voit décrite dans Virgile, aînée, rencontrée. Elle vit en exil de Troie, évidemment. Elle a perdu Hector. Elle sera mariée par Pyrrhus à Hélénus. Elle vit devant un décor qui représente les fausses ruines de Troie, un faux fleuve de Troie, le Simoïs menteur, et un faux tombeau d'Hector, près d'un tombeau vide en extase courbée. Donc c'est tout ça qui lui est remémoré, comme si le palais neuf n'était aussi que le décor d'un drame, de celui d'un exil, et du signe à Andromaque, il va remonter à tous les exilés. Or, la négresse amaigrie et phtisique, c'est bien la femme en exil qui rêve des cocotiers absents de la superbe Afrique. Si vous suivez la litanie, vous avez la veuve, Andromaque, les orphelins, Romulus et Rémus, qui têtent la douleur comme une bonne louve aux maigres orphelins séchant comme des fleurs. Or, ce que vous avez là, la veuve, l'orphelin, l'étranger, le captif, le vaincu, c'est pas du tout dans Virgile que vous le trouvez. Ça, c'est totalement une tradition du judéo-christianisme. C'est dans la Bible ou dans la tradition chrétienne, l'appel de ceux qui sont les rien, les nuls, les rejetés de la société, les déchets de la ville, comme on voit aussi le chiffonnier s'occuper des déchets. Mais de quoi s'occupe Baudelaire? De leur donner, encore une fois, une majesté, parce que Andromaque, c'est la majesté de vos douleurs. Donc, à leur douleur, ils tentent de donner une majesté, ne serait-ce que par la langue. Parce que si vous écoutez la langue, elle est la majesté absolue de la langue. Et donc, contrairement à ce qui va se passer dans les poèmes en prose, c'est encore à la beauté de la poésie qu'ils demandent de sauver les êtres mêmes qui sont dans l'exclusion, dans la misère. L'immense majesté de vos douleurs de veuve. Et alors, refaire une reine de la veuve abandonnée, c'est comme imaginer aussi que seront rois les orphelins, puisque quand ils disent, ils têtent la douleur, c'est encore une fois que la douleur va bien déboucher sur autre chose, renaître dans autre chose, et en plus créer, puisque c'est Romulus et Rémus, permettre de créer une ville. Donc vous avez bien toute l'idée que la douleur nous nourrit, que la douleur permet la majesté. S'ils sont rois, les orphelins, et reine Andromaque, on peut imaginer qu'est reine aussi la négresse, amaigrie et phtisique, que son roi, les captifs, les vaincus, hein, parce que la poésie, la majesté substantielle de la langue, comme il dit aussi dans les paradis artificiels, permet de rendre à ce qui est perdu à la boue de la ville l'or auquel elle est destinée. Or, ça, c'est bien ce que j'ai appelé l'incarnation, c'est bien la tâche que Baudelaire s'est donnée dans Les Fleurs du Mal, parce que si on reprenait l'autre partie de l'épilogue dont j'ai cité le premier tout à l'heure, en considérant que c'est bien deux parties, dans le deuxième, vous avez eu cette déclaration d'amour à la ville, un « je t'aime ô capitale infâme », si on prenait le deuxième épilogue, on aurait « je t'aime ô ma très belle, ô ma charmante », ce qui est déjà quand même plus sympathique pour Paris, et où il passe en revue tout ce qui est Paris, combat et lumière, feux d'artifice et bombes et guerres et, hein, et révolutions, tes magiques pavés dressés en forteresse, mais tes petits orateurs aux enflures baroques prêchant l'amour, et puis tes égouts pleins de sang s'engouffrant dans l'enfer comme des orénoques. Donc toutes les, hein, le noir et la lumière en même temps tout repris et terminé comme ça, ange revêtu d'or, de pourpre et d'hyacinthe. Ô vous, soyez témoin que j'ai fait mon devoir, comme un parfait chimiste et comme une âme sainte, car j'ai de chaque chose extrait la quintessence. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. C'est le devoir qu'il se donne, c'est changer la boue en or, c'est bien accepter, non pas de rêver, de s'enfuir de la ville que pourtant il aimait tant, mais accepter l'incarnation. Si ces nuages, il va quand même finir par les rejoindre, puisque le premier poème du spleen de Paris, c'est quand même l'étranger, et ça s'adresse aux nuages, hein, les merveilleux nuages qui passent là-bas, comme si, après ce moment de grâce absolue que seraient les tableaux parisiens dans l'entreprise de charité, pour prendre son mot ou celui de Rimbaud, eh bien ça va se défaire, puisqu'il va perdre justement la majesté de la langue, injurier la poésie dans la prose des poèmes en prose, plus ou moins, car c'est quand même une abjuration de la poésie, selon lui, que de chercher la beauté hors de la poésie. Donc c'est bien un renoncement à quelque chose. Mais ce n'est pas du tout un progrès par rapport à Fleurs du Mal. Je ne vais pas vous faire la thèse de tous les Américains actuels et de quelques-uns de mes copains aussi à Paris, qu'il y a un progrès entre les Fleurs du Mal et le spleen de Paris. Non, le spleen de Paris, c'est simplement Baudelaire a fini les Fleurs du Mal, et bien il reprend parallèlement, si on veut, une explication, une critique peut-être des Fleurs du Mal, mais nullement comme un progrès. Si il a accompli son devoir d'âme sainte, hein, dans les Fleurs du Mal, eh bien c'est vrai qu'il va perdre son auréole dans les petits poèmes en prose, hein. Un jour il va perdre son auréole dans la rue, parce que prenant peur dans le trafic, elle tombe, et puis finalement, il la ramasse pas. Puis quand il va au café en face, parmi la canaille, il se trouve très bien, il ne va pas la reprendre. Bon, ben, il était fatigué de la poésie, peut-être un peu. Il a bien le droit de se reposer. Ça ne veut pas dire que c'est un progrès, même si son œuvre de sainteté accomplie dans les Fleurs du Mal, il va un peu la laisser de côté. Bon. Cela dit, pour annoncer que il semble que cet instant-là se reproduira jamais, hein, que ce soit Laforgue ou Benjamin, tous les deux, ils remarquent que plus jamais la poésie ne parviendra à dire Paris autrement qu'avec des banalités, des lieux communs, ou des anecdotes, ou alors à la dire comme une ville dont il faut fuir, parce que si vous regardez des poètes comme Apollinaire, qui est quand même un poète parisien sublime, on aurait pu nommer Rimbaud aussi, On voit que chez Rimbaud, c'est encore un mythe qui joue. C'est celui de la Révolution, la ville de la liberté. On retrouvera les mythes de Heinrich Heine, dont on parlera l'année prochaine, peut-être. Mais c'est encore une fois un mythe qui va prendre la place. Puis chez Apollinaire, c'est déjà la ville de la circulation, c'est toutes les villes qui sont là, c'est cosmopolite, les émigrants, les poèmes, encore une fois, où on finit par ne plus voir qu'une ville où les images servent à donner du rêve, de l'évasion, plutôt que l'acceptation d'un lieu où on vit, même si chez Apollinaire, il reste encore un GR à travers mon beau Paris, sans avoir le cœur d'y mourir, mais dans Zone, on voit bien qu'on est déjà dans un universel plus vaste que la ville elle-même. Si on continuait chez les surréalistes, on verrait qu'à leur tour, comme Nerval dans Aurélia, tout va devenir signe et image, comme si la ville était tellement un magasin tel d'images qu'on n'arrivait plus à la considérer comme un lieu où habiter ou rencontrer les autres autrement que dans leurs fantômes et dans leurs images. Mais ce que je disais tout à l'heure, puisque si j'allais jusqu'au bout, mon poète baudelairien préféré, Yves Bonnefoy, on verrait que la ville, là, est totalement absente, comme s'il n'y avait plus rien à y chercher. Hein, il va saluer Baudelaire de ce qu'il a fait. Il va dire, pour sauver le gaz, les wagons, il aurait pu dire encore les omnibus, hein, parce qu'ils sont chez Baudelaire, il faut peiner longtemps sous le vent de l'extériorité. Alors que son devoir, lui, c'est plutôt de renommer la pierre, l'arbre, le feu, parce que c'est ça qui lui semble perdu maintenant. C'est toute la terre qui lui semble perdue, et donc la ville n'est plus le sujet de sa préoccupation. Il s'imagine qu'avec les moyens de communication, les téléphones, Internet et tout ça, eh bien, la ville n'est plus un lieu, tout simplement. Et que si vous retrouvez l'accord avec un lieu, il faut recélébrer les éléments essentiels perdus, comme s'il fallait repasser à la création, comme si les images, en fait, qui sont quand même l'alimentation même de la poésie, étaient en fait un danger, parce qu'elles venaient remplacer l'existence des autres. Que on sait bien que toute l'écriture ne fait que ça, de transformer ceux qui sont en images, et Baudelaire le savait mieux que tout le monde, mais j'essayais de montrer comment lui, il essayait de garder dehors de ces images, justement, les autres, alors que ne plus parler que des enseignes, des magasins, comme Breton, eh bien, c'est perdre peut-être la possibilité de rencontrer. Merci.